Qualité cinématographique avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous. Vous connaissez le fameux adage, en avril...
ne te découvre pas d'un fil.
Et va au cinéma. La semaine dernière, on était en t-shirt dans les studios, là on a ressorti les gros pulls.
Exactement. Je vous vois même avec une écharpe autour du cou.
Presque, oui. Tricotée avec amour par Guillaume.
Ah, ben oui.
Il fait du tricot.
Oui, le soir au coin du feu, oui. Mais...
À la veillée.
À la veillée, et ses admiratrices le savent, qu'elles sont là.
Oui, c'est elles qui envoient les pelotes de laine. Pour...
oui, et elles veulent savoir quels sont ses modèles. Ouh. Voilà. Bon, tout est dit à propos de Guillaume, mais de son art du tricot. J'allais dire de la couture, du tricot, là, c'est pas de la couture. Mais vous avez l'art de dénicher les films à voir à la télévision.
Ouais, une belle semaine pour le cinéma à la télévision. J'ai déniché 5 films, dont 2 à ne pas manquer.
Oula, pas d'autres conseils.
Il y aura un conseil de lecture.
Ah, mais oui, on aime quand vous aimez lire.
Oui, parce que les grandes vacances approchent. Déjà des conseils pour la plage.
Déjà.
On anticipe un peu. Ouais.
On anticipe beaucoup. Hein. Vous étiez en train de nous dire qu'il faut mettre une écharpe et un col roulé, et puis vous voyez déjà en maillot de bain.
C'est ça, c'est mon espérance de soleil qui ressurgit.
Avec nous également Guillaume Sidom. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous et à toutes.
Vous êtes en forme, vous ?
Oui, oui, oui.
Oui, parce que vous nous avez inquiétés et vos admiratrices aussi étaient très inquiètes.
Oui, tout à fait.
Comment va votre santé ?
Ça va mieux, merci beaucoup.
Tant mieux. Eh bien, vous avez eu le temps de réfléchir à la mécanique cinématographique et qu'est-ce que vous nous proposez ce soir ?
Alors, un cluedo ironique et incisif, un plan maléfique et minutieux de Grace Kelly, blonde froide et émancipée, n'est peut-être le plus grand fantasme de Sir Alfred.
Ouh, Sir Alfred, alors ça y est, on est sur la piste. Hein. On est sur la piste, oui. On est sur la piste. Ça ne nous a pas échappé, comme il ne nous échappera pas de... que Grégory Combe, je vais arriver à le dire, je bafouille en ce moment et en ce début d'émission, Grégory Combe, donc disais-je, notre homme de loi des séries, ouvre son tribunal comme d'habitude le mercredi et il sera question de Fallout, une série qui passe sur Prime Video. Mais Fallout, vous le savez, c'est avant tout un jeu vidéo, une des plus grandes franchises de l'histoire des jeux vidéo. Et donc, Fallout est devenu une série. C'est pas la première... le premier jeu vidéo à être devenu une série, mais en tout cas, Fallout, on l'attendait, comme l'attendait également Grégory Combe, mais il nous en parlera tout à l'heure. Et puis, qu'y aura-t-il d'autre ce soir dans le panier de l'ouvreuse? Eh bien, elle va scruter l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin, et puis il y aura des reprises sur le grand écran. On jettera un coup d'œil au potin. Non, pas au potin. On jettera un coup d'œil peut-être au box-office. Les potins aussi, mais et puis il y aura des coups de cœur parce que on a toujours envie que vous alliez voir des films ou que vous alliez dans des festivals voir des expositions quand il y en a, n'est-ce pas Laurent, que vous alliez voir tout ça de notre part. On est ensemble jusqu'à 20h. Bon début de soirée avec nous. Et pour commencer l'émission, je vous propose à vous Laurent, puisque vous espériez déjà la plage et le maillot, d'aller faire un tour sur la Croisette et Cannes, puisque vous le savez, il y a déjà eu une annonce pour la sélection officielle, une deuxième il y a très peu de temps. Alors on va jeter un coup d'œil sur ce qui attend les festivaliers sur la Croisette et ce qui nous attend, ce dont on va beaucoup parler en mai. Fais ce qu'il te plaît et va sur la Croisette, mais ça marche pas. Ça rime pas. Non. Le film d'ouverture est un film signé Quentin Dupieux qui filme plus vite que son ombre.
Ah oui,
ça s'appelle
prolixe.
le deuxième acte. Et ce film d'ouverture n'est pas en compétition. Dans la compétition, on retrouve beaucoup de monde, des noms connus comme Karim Maïnouz qui revient avec Motel Destino. Il y a Andrea Arnold avec Bird, Jacques Audiard qui représentera donc la France avec Emilia Pérez. Et la très grande et très grosse nouvelle, c'est Francis Ford Coppola qui sera en sélection en compétition avec Mégalopolis. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu à Cannes, ça faisait longtemps qu'il n'était pas à la tête d'un film. Le revoilà donc, eh bien, avec une réalisation et dans la compétition, comme on retrouvera aussi David Cronenberg avec The Shroud, et on est sûr qu'on va être un peu secoué. Ouais, David Cronenberg s'est remué. Ouais. Le cocotier et faire en sorte
appuyer
que...
là où ça fait mal.
Exactement. On fait, et alors là aussi un autre français, Michel Hazanavicius, qui réalise un film d'animation, et ça faisait très longtemps qu'un film d'animation n'était pas dans la sélection officielle en compétition. Le voilà, et il est signé donc Michel Hazanavicius, et s'intitule La plus précieuse des marchandises. Christophe Honoré est là aussi, avec Marcelo Millo. Il y a Yazanke aussi, avec Caught by the Tides. Yorgos Lanthimos, pauvre créature, qui a cartonné, qui a permis à Emma Watson... Emma Stone, je me mélange avec toutes ces Emma et je mélange Emma Stone.
Je confonds avec Emma Stone.
Oui, Emma Stone qui a eu
un Oscar
de la meilleure actrice. Et le revoilà donc, Yorgos Lanthimos avec Kinds of Kindness. Gilles Lelouch en compétition aussi, deuxième film. On se souvient du Grand Bain et cette fois-ci c'est L'amour ouf qui lui permettra justement peut-être d'accéder à un prix sur la croisette. Et Paul Schrader au Canada, et puis Kirill Srebrennikov avec Limonov, The Ballad. On n'aura pas fait, on n'a pas tout passé en revue, ça serait fastidieux, mais en tout cas, parmi ces noms-là, il y a des choses autour desquelles, enfin en tout cas qu'on peut espérer à propos de ce qu'ils vont proposer. Alors, un certain regard, c'est Runarsson qui ouvre la compétition, en fait la section, un certain regard, When the Light Breaks, et qui trouve-t-on bien Laetitia Doche à la tête d'un film. C'est un premier film et ça s'appelle Le procès du chien, parce qu'un chien va être jugé. Laetitia Doche, dont on connaît bien la frimousse et le talent en tant qu'actrice, la voilà donc derrière la caméra. Ça nous promet probablement quelques belles choses. Céline Salette réalise elle aussi son premier film, encore une Française, et ça s'appelle Nikki. Et donc, premier film, caméra d'or possible, puisque vous savez qu'il y a le jury de la caméra d'or qui attribue ce prix à la meilleure première œuvre. Voilà pour un certain regard. Alors, il y en a d'autres. Encore une fois, on va pas tout passer en revue. Du côté des films hors compétition. Alors là, il y a du lourd, du très solide. Le dernier film de Kevin Costner. Alors, on l'avait pas vu ni derrière la caméra, ni devant, depuis un certain temps. Ça s'appelle Horizon. Et puis, alors, les films qui vont remuer. Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte pour leur compte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. Et puis, on attendait un nouveau volet de la saga Mad Max. Eh bien, il sera là, George Miller, avec Furiosa. Vous savez, vous vous souvenez du Mad Max qu'il avait refait où on découvrait Furiosa, adulte, avec un bras manquant. On se demandait comment elle pouvait et elle arrivait à conduire ce poids lourd énorme et comment elle en était arrivée là. Eh bien, on saura maintenant comment elle en est arrivée là, puisque le film est un préquel, Furiosa, une saga Mad Max. Et puis, Rumours, d'Evan Johnson, Galen Johnson et Guy Madin. Ça vient du Royaume-Uni. Et les séances de minuit, alors là, on ne sait pas, on a peur, on n'a pas peur, ça décoiffe pas. C'est à découvrir. Et il y aura il y aura Noémie Merlant qui va présenter Les femmes au balcon. Eh oui, c'est séance de minuit. Et dans Cannes Première, Nabil Ayouch, Everybody Loves Tunda, C'est pas moi, de Léos Carax, eh oui, le revoilà. Et puis Emmanuel Courcol, qu'on avait bien aimé, et voit son troisième film sélectionné en fanfare. Alain Guiraudy est là aussi avec Miséricorde, le roman de Jim des frères Larieux. Gaël Morel avec Vivre, Mourir, Renaître. Maria de Jessica Palu. Et Rendez-vous avec Pol Pot de Ritipan. Ça fait une belle brochette, en tout cas, de films français. Il n'y a pas que, mais il y en a pas mal quand même. Voilà.
Un petit mot sur le jury, ou on les connaît déjà?
On ne connaît pas les membres du jury, mais on sait que c'est Greta Gerwig qui va être la présidente. Greta Gerwig, qui est actrice, mais surtout maintenant très connue pour avoir réalisé Barbie. Donc c'est elle qui présidera le jury cette année. Dès qu'on a des nouvelles, on vous tient au courant. Et tiens, on écoute Camille Saint-Saëns. Installez-vous confortablement, la projection commence et regardez le bas de votre poste radio pour lire les sous-titres.
Do you really believe in the perfect murder?
Yes, absolutely. On paper, that is. But I doubt if I could carry it out.
Oh? Why not?
Well, because in stories, things usually turn out the way the author wants them to, and in real life, they don't.
Et vous, Guillaume Sidom, vous croyez au crime parfait?
Ah, toute une question, Louis-Marie. Le crime était presque parfait, film de 1955 d'Alfred Hitchcock avec Grace Kelly, Ray Milland, le coup de téléphone peut-être le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Et à cet instant précis, une intrigue qui bascule totalement devant vos yeux, celle du meurtre et de cette montre arrêtée, l'agression en direct au téléphone. Vous entendez alors les cris étouffés de la victime sans pouvoir rien y faire, n'est-ce pas là le comble de l'horreur? C'est presque avec délectation que le coupable reste pendu au téléphone, ne pipant mot, dans l'attente de la preuve sonore de la réussite du contrat. Notez qu'aujourd'hui, l'intrigue du film n'est pas possible avec le portable, avec le téléphone fixe. C'est bien le où qui détermine l'action et pas le quand avec la technologie d'aujourd'hui. Ce classique d'Alfred Hitchcock est porté par l'excellente prestation de Ray Milland et la beauté glaciale de Grace Kelly. Celle-ci est d'ailleurs saisissante dans la scène avec la paire de ciseaux. L'intrigue de ce huis clos est habilement ficelée et vous tient en haleine jusqu'au bout. Le crime était presque parfait, un spectacle savoureux, rythmé, de retournement de situation.
Sorti quelques mois avant, Fenêtre sur cour, le crime était presque parfait, défrait la chronique parce qu'il utilise la 3D.
Et oui, en 1954, Alfred Hitchcock cède donc lui aussi en effet à cette mode disparue aussi vite qu'elle est apparue. Son long métrage est en effet tourné avec une caméra capable de reproduire un relief à la projection, même si technologie oblige, il est désormais facile de le voir en 3D. Vous ne retenez pas le crime était presque parfait pour autant pour cette technologie, mais plutôt par son intrigue d'une redoutable efficacité, et je vais essayer de vous démontrer pourquoi. Ce quasi huis clos est en effet adapté d'une pièce de théâtre. Alfred Hitchcock s'entoure du dramaturge pour écrire son scénario et de deux des acteurs de la pièce pour son casting. Et toutes les conditions sont réunies et le résultat est excellent, avec un suspense intense pour savoir comment ce crime quasiment parfait sera finalement déjoué. L'essentiel de l'intrigue se déroule en intérieur, dans l'appartement des Wendy's. Très vite, le crime était presque parfait se focalise sur Tony et Margot, un couple marié depuis de longues années, mais qui n'est pas heureux. D'ailleurs, un certain Mark Hallyday débarque des États-Unis et rend visite à cette dernière, ce qui vous permet d'apprendre que les deux entretiennent une relation romantique depuis plusieurs mois. Le mari, évidemment, n'est pas censé être au courant, mais quand il ne se rend pas à la soirée prévue ce soir-là et qu'il accueille une vague connaissance pour lui exposer son plan, vous comprenez vite alors qu'il est complètement au parfum. Il sait exactement ce qu'il se passe et il a prévu une vengeance définitive en tuant sa femme et en empochant sa fortune indispensable au maintien de son mode de vie. Mais plutôt que de la tuer lui-même, il a mis au point un ingénieux stratagème, un crime parfait donc, en déguisant le meurtre en un cambriolage qui s'est mal passé. Il a pensé à tout, imaginé l'enquête de la police pour mieux déjouer les questions des enquêteurs et ainsi offrir une version qui ne le met jamais en cause et lui permet d'incarner un veuf inconsolable, inconsolable mais riche.
Donc c'est l'idée de départ, mais le titre français, d'une certaine façon, divulgage l'intrigue, et ce crime parfait ne va pas le rester bien longtemps.
Ah oui, tout l'enjeu c'est précisément de savoir comment Tony va se faire avoir. L'histoire originale n'est pas d'Alfred Hitchcock, évidemment, mais il faut reconnaître qu'elle est vraiment brillante et particulièrement bien écrite. Le mari commence par exposer son plan méticuleux, il ne laisse aucune option à Swan, celui qui devra l'exécuter. Il a tout prévu, cela fait plusieurs mois qu'il planifie l'événement qui doit se passer le lendemain soir. Tout est parfait en théorie. Chaque événement minutieusement calculé et le plan devrait permettre à Tony de s'en tirer sans le moindre soupçon. Il a tous les alibis nécessaires et toutes les preuves pointent dans la direction opposée et tout est minutieusement préparé, sauf que le jour dit, rien ne se passe comme prévu. Et il doit alors improviser, le crime était presque parfait, multiplie alors les fausses pistes. Alfred Hitchcock joue avec vos nerfs, hein, vous spectateurs, en vous montrant clairement des éléments qui ne sont pas forcément importants et en omettant des détails qui semblent peut-être insignifiants, mais qui sont finalement la preuve nécessaire pour dénoncer le vrai coupable. La caméra est toujours au bon endroit, les jeux de lumière mettent en avant ou masquent les éléments du décor, les mouvements des acteurs sont tous logiques et fluides et vous êtes souvent assez proche du théâtre filmé, avec même un entracte au milieu du film. Ce format colle parfaitement au sujet et il participe même à l'élaboration du suspense. C'est un excellent thriller, plein de suspense jusqu'à la dernière minute. Le casting impeccable, la mise en scène efficace et le long métrage est intense et prenant. Le crime était presque parfait, se voit et se revoit avec toujours autant de plaisir. Ne coupez pas, le cinéma est à l'autre bout du film. À retrouver donc en vidéo à la demande sur Univers Ciné, Orange, Canal VOD, Viva, Première Max et la Cinéthèque, la Cinémathèque des réalisateurs. Également disponible en Blu-ray et DVD chez Warner Bros. Vidéo. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Et ce n'est pas Bernard Herrmann qui compose la musique du film d'Alfred Hitchcock, Le crime était presque parfait, mais Dimitri Tiomkin, dont vous entendez des morceaux qu'il a composés pour le film. Et on parlait du titre français qui trahissait l'intrigue, Le crime était presque parfait, mais le titre original, lui, était bien moins évocateur, puisque c'était Dial M for Murder, composer le M pour meurtre. Et oui, tout toujours une histoire de téléphone. Couvreuse scrute l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin.
À l'affiche cette semaine, Frère, au pluriel, d'Olivier Cassas avec Mathieu Kassovitz et Yvan Attal. L'histoire vraie de deux petits garçons de 5 et 7 ans qui, abandonnés par leur mère en 1948, s'enfuient dans la forêt. Ils vont y survivre pendant 7 années et tisser un lien qui les unira à jamais. Et des décennies plus tard, les deux frères quittent tout pour se retrouver. Mais le passé et les secrets les rattrapent, même à l'autre bout du monde. Michel, interprété par Yvan Attal, apprend un jour que son frère Patrice, interprété par Mathieu Kassovitz, a disparu en emportant avec lui son passeport. Il s'envole alors vers le Canada pour partir à la recherche de celui qui, durant leur enfance, lui a sauvé la vie. Plutôt habitué des comédies familiales, Olivier Cassas s'attelle à bras-le-corps à une histoire vraie, aussi dramatique qu'émouvante. Dans la forêt, on est face à soi-même, on ne peut pas se mentir. C'est comme une clé de lecture pour comprendre le périple émotionnel de ces deux enfants, devenus donc des hommes plutôt désabusés. Cette réplique déploie sans doute tout ce qu'il y a de plus beau dans le propos du dernier long métrage du réalisateur français. Par pudeur et respect, quoique peut-être par manque d'audace aussi, il en ressort tout de même une volonté de s'effacer derrière un tel récit. Et de fait, hormis dans une poignée de séquences à la forme aussi forte que le fond, la mise en scène ne brille que trop rarement, le parti pris étant plutôt de se concentrer sur l'émotion des comédiens et du scénario. Or, si Mathieu Kassovitz s'avère plutôt convaincant, un homme des bois en pleine crise existentielle, on l'a dit, le jeu plutôt déclamatoire d'Yvan Attal peut quant à lui se montrer assez pénible, tant sa sincérité paraît artificielle en comparaison avec celle de son camarade de jeu. Cependant, une fois réunis, les deux comédiens parviennent à toucher du doigt la fraternité saisissante de deux êtres liés à jamais par les épreuves surmontées ensemble. Cette complicité indéniable se ressent aussi lorsque ce sont les jeunes comédiens, forcément, qui endossent le rôle de Michel et Patrice. Il y a deux comédiens quand ils ont 5-7 ans et puis deux autres comédiens quand ils sont 12 et 14 ans, avec à des instants où leur alchimie fait oublier un peu l'académisme qui peut être pesant du film. Petit bémol aussi sur la musique qui appuie de manière aussi mélodramatique des scènes qui au contraire auraient peut-être bénéficié d'un traitement plus épuré. Voilà, donc à la fois un témoignage bouleversant. Un long métrage peut-être entravé par un classicisme important, Frère a quand même le mérite de miser sur sa sincérité pour marquer les esprits. Louis-Marie, vous avez rencontré Olivier Cassas, le réalisateur.
Olivier Cassas et Michel de Robert, le survivant des deux frères. Ah, j'ai trahi quelque chose, mais on comprend très vite, de toute façon, ce qui va se passer dans le film, et vous l'avez bien souligné. La mise en scène est un peu uniforme. Je ne sais pas trop comment la qualifier, mais elle
manque... manque de relief.
Peut-être, c'est plutôt ça. Dépassée peut-être par le récit assez exceptionnel de cette histoire de ces deux frères qui ont vécu quelque chose de dramatique. Hein, Michel et Patrice, Yvan Attal et Mathieu Kassovitz à l'écran. Et c'est une histoire vraiment incroyable, hein. Ce sont pas des enfants sauvages, mais presque, puisque oui. L'enfant sauvage, lui, n'a connu que la nature, est né dans la nature. Eux, ils l'ont découvert quand même à 4 et 6 ans. C'est pas vieux. C'est pas vieux.
Comment
et ils sont restés.
Comment peut-on survivre dans la forêt?
Cette année,
c'est extraordinaire.
C'est incroyable. Et pourtant, c'est vrai. Et alors, comment Olivier Cassas, qui lui, vous l'avez dit, c'est son deuxième film, avait commencé par un genre, la comédie romantique,
oui,
comment s'est-il, ou familiale, comment s'est-il retrouvé à la tête d'un projet comme celui-là, eh bien, il va vous le raconter, c'est le mieux.
Ce qui s'est passé, c'est qu'avec Michel, on se connaissait depuis une bonne dizaine d'années. Et on se connaissait d'un café à Paris qui est dans notre quartier, qui est un peu notre repère depuis plus de 20 ans. Moi, j'ai écrit mon premier scénario là-bas. D'ailleurs, j'ai fait tout le découpage, le scénario des enfants de frères dans ce café. C'est un peu notre point de rendez-vous du matin. Et on est toute une bande de copains depuis une dizaine d'années, depuis 20 ans, et on est une bonne dizaine à se retrouver. Il y a les matins, on est deux, des fois on est huit, des fois on est dix, ça dépend. Juste le plaisir de démarrer la journée ensemble. Il y a plein de profils, ça va de 40 à 70 ans. Il y a un plombier, il y a un avocat, moi qui suis dans le cinéma, Michel qui est l'archi. Pour moi, c'était l'architecte de la bande, quoi. Donc, ce monsieur très smart du 17e arrondissement, avec une belle montre et des belles chaussures, très, très élégant, très solaire, avec en plus un nom à particules, enfin, une certaine
vieille France,
une certaine stature.
On va dire.
Et un week-end, on se retrouve invité par un des copains de la bande, donc qui est un avocat, qui nous dit, bah écoutez, j'ai acheté une maison en Ardèche qu'on retape depuis des mois et des mois, et venez avec femme et enfant. On fait tout ça un week-end pour inaugurer la maison. Il y a 8 chambres, tout le monde vient avec sa famille. Et il se trouve que c'était Michel qui avait rénové la maison. Donc on se retrouve à l'été 2015 tous ensemble, en rencontrant un petit peu les femmes et maris des uns et des autres. Et pendant 24 ans, moi je vois pas Michel du tout, parce qu'il est en train de réceptionner son chantier, donc il rappelle tous les corps de métier, il va à droite à gauche et tout ça, et puis le samedi après-midi il se pose enfin au bord de la piscine et il prend un bout de bois et un couteau et il se met à le tailler comme un indien Cherokee. Et je vois ça de l'autre bout de la piscine et je lui dis, mais je m'approche de lui et je lui dis, mais Michel, il y a un truc que tu m'as pas raconté là, ou... Et il a un petit sourire et il me dit, bah écoute, j'ai une enfance un peu particulière.
Il a eu une enfance un peu particulière. Et tout ça, dans le film, on le sent très bien, vous en avez parlé, Laurent. Toute cette jeunesse est cachée. Leur entourage ne sait pas du tout ce qu'ils ont vécu. Ils ont des enfants. Et leurs enfants, leurs épouses ne savent pas du tout ce qu'a été leur vie ces 7 ans, alors qu'ils étaient enfants et tout jeunes adolescents. 7 ans, vivre dans la forêt, être capable de survivre dans la forêt, pouvoir s'abriter, manger et comprendre et savoir ce qu'il est possible de manger ou pas, parce qu'au départ, ils ne le savent pas. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et combien les sacrifices de l'aîné pour protéger le petit frère ont scellé à jamais le lien qui les unit. C'est pour ça que c'est tellement fort le lien qu'ils ne peuvent le raconter à personne. Ils ne peuvent pas dire ça parce qu'ils ont vécu ça, et qu'en fait, tout le film montre comment ils s'efforcent de pouvoir s'intégrer à cette société qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne l'ont pas connue au moment où il aurait fallu qu'ils la connaissent. Vous avez eu donc la version d'Olivier Cassaz pour savoir comment il avait eu vent de cette histoire, et maintenant, comment Michel de Robert s'est laissé convaincre.
On était tous les deux dans un coin de la cour derrière le bassin là. Et puis c'est venu comme ça. Moi j'ai Olivier, on se connaissait bien, je me suis dit bon, sympa, et j'ai commencé à lui dire, voilà, tu sais, moi j'ai toujours tout le monde m'appelle MacGyver. Et on m'appelle MacGyver parce que je suis très adroit de mes mains, je dessine très bien, je répare n'importe quoi, etc. Donc ça vient de cette fameuse enfance. Olivier me dit, mais il faut que tu me racontes. Et en fait, il a le don d'être persuasif, d'être comme vous, comme les journalistes, quoi. C'est-à-dire de poser la question qui va amener l'autre question, et l'autre question, et l'autre question. Donc il m'a un peu fait parler, et donc je l'ai délivré à Olivier en 3-4 heures, 2 heures ou 3 heures, enfin c'était assez long.
Et c'est vrai que moi...
Et ensuite on s'est quitté, et puis Olivier m'a rappelé... 3-4 jours après.
Ouais, pour qu'on avance et qu'on commence à discuter.
Il m'a dit, mais
ensemble.
Michel, c'est quand même une histoire incroyable. C'est juste après la guerre. Vous êtes des enfants abandonnés. Ton histoire, elle est complètement dingue. Mon boulot, c'est de faire un film, et j'ai vraiment envie de faire un film avec ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et j'ai dit, écoute, oui.
Il a dit oui, il a raconté l'histoire, et c'est ce qu'on découvre donc sur l'écran, devant la caméra d'Olivier Cassaz. Le culte du secret, j'en ai déjà parlé, dit un mot, c'est ce qui est le plus présent et ce qui peut être incompréhensible et compréhensible finalement à la fois, mais qui déroute le spectateur, parce que après tout, s'ils racontaient ce qu'ils ont vécu, peut-être les verrait-on d'un autre œil et on aurait un regard différent, peut-être plus compatissant, mais c'est probablement et sûrement pour ça qu'ils n'ont pas voulu que ça se passe comme ça. Alors bon, Atal et Kassovitz, font les deux frères parfaitement. Un duo assez charismatique. Le bémol, c'est la voix off qui raconte, et la voix off, c'est le jeune frère, c'est-à-dire Yvan Attal. Là, de temps en temps, c'est un peu trop appuyé, et ce qui rend le film, qui pourrait être quelque chose qui vous emporte, qui emporte le spectateur, on reste devant cette histoire estomaquée par ce qui est arrivé à ses deux enfants, mais un peu déçu par la qualité du film.
Alors que Mathieu Kassovitz, c'est une excellente voix off, parce que dans les documentaires qu'il fait sur historique notamment, il est vraiment excellent. Donc peut-être le choix aurait dû être différent.
Mais oui, mais c'est l'aîné dans le film, et l'histoire est racontée par le plus jeune.
Petite revue de presse, ce que raconte le réalisateur Olivier Cassas, c'est d'abord la relation fusionnelle entre ces deux frères qui persiste des décennies plus tard, et l'alternance entre les scènes d'enfance et les scènes à l'âge adulte apporte beaucoup de souffle à cette histoire d'amour inconditionnel, selon Le Parisien. Selon La Croix, si le film frustre par quelques ellipses rapides, il réussit à dépeindre la relation fusionnelle et indestructible tissée entre les deux frères. Et gros bémol pour Télérama, une narration trop mécanique. À l'affiche aussi cette semaine, un film sur vous, Guillaume, Le Déserteur, ça c'était pour mercredi dernier, de Danny Rosenberg, avec Ido Taco. C'est une sorte de Shlomi, un soldat israélien de 18 ans qui fuit le champ de bataille pour rejoindre sa petite amie à Tel Aviv. Et rentre dans une ville à la fois paranoïaque et insouciante, et il finit par découvrir que l'armée à sa recherche est convaincue qu'il a été kidnappé. Il y a un voyage haletant, une ode à la jeunesse qui se bat contre ses idéaux qui ne sont pas les siens. À noter que le film a été tourné plusieurs mois avant les attaques meurtrières du 7 octobre 2023. C'est le deuxième long métrage de Danny Rosenberg après La mort du cinéma et de mon père aussi. Ce deuxième long fait pourtant puissamment écho à l'actualité, à l'actuelle situation de la société israélienne. Le cinéaste met en scène le désir propre à sa génération de fuir autant que possible la violence dans laquelle est depuis longtemps plongé le pays, et entre Tel Aviv, ville dont l'ambiance est en apparence hédoniste et touristique, mais en réalité dévorée par l'angoisse, le jeune héros essaie de faire triompher ses idéaux pacifistes, mais se heurte à une foule de personnages qui ne semblent pas le comprendre. Danny Rosenberg adopte pour cela un style tragicomique et réussit plusieurs séquences burlesques où le protagoniste, incarné avec brio par Ido Taco, apparaît comme un pantin tout droit sorti du cinéma muet. Le jeune homme va tomber de haut et réaliser que ses rêves de paix relèvent de l'illusion. Petite revue de presse, portée par une mise en scène efficace, Le Déserteur s'autorise des touches de burlesque et quelques jolis plans séquences qui viennent soutenir le rythme du récit selon l'humanité. Une tragicomédie effrénée jouant admirablement de l'absurde selon les fiches du cinéma et les inrocs n'ont pas aimé. Naviguant tour à tour entre le drame, le thriller, la comédie ou la satire, Le Déserteur s'essouffle malheureusement à l'image de son protagoniste. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir N'avoue jamais d'Yvan Calberac avec André Dussolier, Sabine Azéma et Thierry Lhermitte. Première affaire de Victoria Musiel-Lac. Notre monde, un film kosovar de Luana Bajrami, qu'on peut voir par exemple au CGR Le Paris à Montauban. Le mangeur d'âme de Julien Maury et Alexandre Bustillo au CGR Blagnac. Le déserteur, je viens d'en parler, on peut le voir par exemple à l'ABC Toulouse ou au Régent à Saint-Gaudens. Bushman de David Chekele au Grand Palais à Cahors. Le jeune chaman, alors là tenez-vous bien, c'est un film mongol de Lakhvadaloum Purev au Chir. On peut voir aussi Back to Black de Sam Taylor Johnson. C'est un biopic sur Amy Winehouse, la chanteuse. On peut voir aussi Challengers de Luca Guadagnino, un documentaire qui s'appelle Les Vieux de Klaus Drexel. Et pour finir, un film d'animation, Sky Dome 2123 de Tibor Banoki et Saola Zabo, qu'on peut voir au CGR à Tarbes ou à l'American Cosmograph à Toulouse. With his shame, oh shame, babe.
Il y a peu de temps, une semaine, deux petits mois, on découvrait Bob Marley et la vie du reggae-man et comment il était arrivé au firmament de la musique et de la renommée internationale. Et maintenant, c'est Amy Winehouse. Alors là, Amy Winehouse, Back to Black, c'est d'ailleurs la chanson qu'on est en train d'écouter. C'est plutôt une bonne surprise. Ah là là, pour le coup, oui, l'histoire donc d'Amy Winehouse s'est focalisée, bien sûr, sur la vie amoureuse d'Amy Winehouse. C'est le moment où elle rencontre Blake, et elle aurait jamais dû rencontrer Blake. Parce que à partir de là, eh bien, tout ne va être que tourment dans la vie d'Amy Winehouse. Et c'est plutôt une bonne idée d'avoir axé l'histoire, la vie de cette femme météoritique, puisqu'elle fait malheureusement partie du club des 27. Toutes ces grands noms de la musique qui sont morts à 27 ans. Elle donc est partie comme ça, et à cause de cette relation amoureuse qui n'a fait qu'envenimer ce qu'elle pouvait ressentir, toute la douleur qu'elle avait en elle. Une bonne surprise donc, des comédiens investis et un choix cinéma scénaristique, je le disais, plutôt malin. Et puis de la musique, alors évidemment, il y a que du bon.
L'ouvreuse sur Radio Présence.
Et le moment pour nous est venu de retrouver le tribunal des séries et notre homme de loi, Grégory Com, qui va nous parler de Fallout, qu'on peut voir sur Prime Video.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, je suis très heureux ce soir et je vais vous dire pourquoi. J'ai regardé la série Fallout sur Prime Video et ça me faisait très peur. Alors Fallout, c'est de base une série de jeux vidéo, vous allez me dire encore, oui encore, on voit qu'aujourd'hui l'adaptation des jeux vidéo en film ou en série télé, c'est le nouvel Eldorado. Alors à une époque ça a été une catastrophe, mais on commence à avoir des choses quand même de qualité et là, pour moi, nous avons la meilleure adaptation d'un jeu vidéo. Alors, c'est quoi Fallout ? Fallout, c'est pour moi des jeux vidéo cultes, surtout le Fallout 1 et 2. Après, on va passer les détails, mais ça a été racheté. Les autres suivants ont été tout en 3D, mais c'était plus bourrin, c'était un peu moins sympa. Passons. En fait, ça nous raconte une histoire post-apocalyptique. Bon, post-apocalyptique, ça veut dire que l'apocalypse est arrivée. Ici, c'est une apocalypse nucléaire. Des gens se sont réfugiés dans un abri et, suite à divers problèmes, certaines personnes vont sortir et vont aller visiter les terres désolées. Malheureusement, ce sont des terres désolées, mais pas des terres vides. Et il y a des communautés qui se sont organisées, mais les radiations ont fait changer beaucoup de choses. Fallout, la série télé, va reprendre vraiment à la fois le jeu vidéo, mais ça va pas être une bête adaptation du jeu vidéo. On n'est pas dans le cas, par exemple, de The Last of Us qui reprend le jeu et qui le traduit en film directement. Non, là, on est sur une histoire qui est dans le monde de Fallout et qui complète le monde de Fallout. Alors, faut-il avoir joué au jeu pour regarder la série ? Pas du tout. Mon épouse a regardé la série avec moi, elle a pas joué au jeu. Ça, le jeu en lui-même ne l'intéressait pas, mais elle a adoré la série. Donc, on va suivre trois personnages, une habitante d'un abri, très candide, qui va être obligée d'aller dans les terres dévastées, un jeune homme, un jeune écuyer de la confrérie de l'acier, des sortes de chevaliers en armure futuriste, qui essaient de ramener la science dans ce monde dévasté, et une goule, ce sont des humains qui ont été affectés par les radiations, et qui obtiennent différentes caractéristiques, mais qui peuvent devenir sauvages si elles ne se soignent pas au fur et à mesure. Par rapport à ça, évidemment, on va rentrer, et je ne rentrerai pas dans le détail du scénario, parce que le scénario est excellent, avec énormément de retournements de situation. Nous allons avoir un véritable complot, une histoire qui va nous expliquer pourquoi il y a eu aussi cette fameuse guerre nucléaire. On a vraiment beaucoup de réponses dès la saison 1, et c'est excellent. Derrière, on a Jonathan Nolan, hein, le frère Nolan, mais qui est surtout connu pour avoir fait Westworld et pour faire les meilleurs scénarios des films de son frère Christopher, hein. D'ailleurs, les meilleurs films de Nolan sont ceux où c'est le frère qui est scénarisé. Et donc, on va avoir à la fois une vision triste et complètement désespéré d'un futur apocalyptique, mais tout en y mettant de l'humour, mais de l'humour très sarcastique. On n'est pas dans de l'humour à la Marvel, où on fait une ou deux blagues pipi caca, et tout se passe bien, et il n'y a pas de souci. Non, là, on est vraiment dans de l'humour de fin du monde. Vous allez sourire, et en même temps vous dire quand même ce qui est en train de se passer, c'est assez horrible. La série est gore, je ne vais pas vous mentir là-dessus, elle est très gore, mais elle n'est pas gore gratuitement. L'autre point intéressant, c'est que nous sommes dans une société post-apocalyptique dystopique. Alors vous allez me dire, tant de mots, dystopique, ça veut dire quoi? Dystopique, c'est-à-dire qu'on prend notre société, qu'à un moment il se passe quelque chose et qu'elle évolue différemment. Et là, en fait, c'est une société qui était, avant la guerre nucléaire, futuriste, mais le futur comme imaginé par les Américains dans les années 50. Donc, le fameux futur rétro des années 50 qui justement va connaître cette guerre nucléaire. Alors voilà, la série, c'est 8 épisodes, c'est excellent, c'est très bien réalisé, les musiques sont exceptionnelles, les personnages sont écrits avec une finesse extraordinaire aussi, parce qu'on pourrait penser qu'ils sont caricaturaux, parce que ce sont des archétypes en fait de personnages, entre la personne très bienveillante, naïve, la personne un peu neutre mais qui a des forts idéaux, et celui qui est blasé par la vie horrible qu'il a vécue. Mais ils vont évoluer, ils vont avoir des histoires sur leur passé qui vont être très très forts, et franchement on se met à les apprécier et à vouloir les suivre un maximum. Donc le casting est parfait, et effectivement on finit à la fin en se disant vivement la saison 2. Donc je vais pas tourner autour du pot, chers auditeurs, votre temps est précieux, passez-le devant Fallout, vous ne serez pas déçus, je vous remercie.
On ne sera pas déçus, on va suivre le conseil de notre homme de loi des séries, Grégory Combe. La bande originale de la série Fallout est composée par Ramin Djawadi. Vous vous souvenez, c'est lui qui avait écrit la BO de Game of Thrones. Il est très demandé maintenant. Et sans transition aucune, on s'en va où? On s'en va en bord de Marne?
Du lundi jusqu'au samedi, pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballé sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau, Paris au loin.
Il y a du bruit autour de Jean Gabin, c'est normal, il y a ses copains, vous savez, ses copains qui étaient chômeurs, et puis il y avait aussi un proscrit catalan avec eux, ils étaient cinq, et ils avaient juré de se sortir de la mouise Il s'achète un billet de loterie à 5 et il tire le gros lot, et ce qui fait qu'avec la somme d'argent, plutôt que de garder leur part chacun et partir de son côté, ils décident d'ouvrir cette fameuse guinguette au bord de l'eau, tous les 5 ensemble, et qu'ils vont appeler chez nous. Et c'est l'inauguration, c'est les débuts, c'est joyeux. On mange, on boit, on danse, on se promène sur l'eau, voilà. Et vous le savez, Julien Duvivier, c'est lui qui l'a réalisé, et il avait imaginé une fin plutôt tragique. Et pour la première fois en France, le producteur, voyant la copie du film et voyant la fin de ce film, vous vous souvenez, Frédéric Thibault nous l'avait raconté, a dit non, c'est pas possible, on va demander son avis au public. Alors avant que le film ne sorte, eh bien, ils ont fait une projection test. Eh oui, comme on en fait, il arrive qu'on en fasse encore maintenant, souvent même. Et les spectateurs, à la fin, non, ça leur a pas plu, cette fin dramatique, c'était pas bien. Et Julien Duvivier s'est plié à la loi du public et a tourné une fin alternative. Alors, à la Cinémathèque, puisque c'est à la Cinémathèque qu'on peut voir le film, eh bien, vous verrez les deux fins. Comme ça, vous vous ferez une idée, vous saurez si le public a bien fait de demander cette fameuse fin joyeuse alternative. Et en plus, il y aura des documents. Alors, un document qui va précéder le film et un autre qui va le suivre, des documents audiovisuels de l'INA, Soirée Cinéma, donc la belle équipe, Armand Panigel et Solange Péter avaient réalisé ça en 1972, à l'occasion donc d'une rencontre avec le scénariste Charles Spaak et les acteurs Viviane Romance et Charles Vanel, qui évoquent donc pour Armand Panigel leurs souvenirs. Et à la fin du film, on retrouve les mêmes qui parlent encore une fois de ce qui leur était arrivé au moment du tournage et de la façon dont ça s'était passé avec Julien Duvivier. Le film est projeté donc avec ces deux suppléments vendredi 26 avril 2024 à 21h, c'est-à-dire après-demain. Et puis toujours à la Cinémathèque et toujours Julien Duvivier, vous irez voir Golgotha. Eh oui, le grand film de Julien Duvivier, le grand film du cinéma français, des décors pharaoniques pour raconter les derniers moments de Jésus et pour découvrir Jean Gabin en Ponce Pilate. Et c'est quoi, Edwige Feuillère, je crois, en Pacula, hein, si je me Procula, pourquoi je dis Pacula, Procula, je me Procula, prends les pieds
Procula,
dans le tapis.
C'était le réalisateur Alain Pacula.
Oui, c'est ça. J'ai confondu. Voilà. Pour découvrir Golgotha, il faudra patienter jusqu'à mardi prochain, 30 avril, à 21h. Vous voulez aller voir ces films invités par l'ouvreuse? Eh ben, c'est facile, cinéma@radioprésence.com. Il faut que je le dise dans l'ordre quand même, l'adresse cinéma@radioprésence.com. Et puis au chapitre des reprises, il y a ça aussi. Tiens. Une musique composée par, j'espère que je n'écorche pas son nom, Jean-Pierre Boutaïr. C'est pour le film de René Laloux, Les Maîtres du Temps, un film d'animation sorti en 1982 avec des dessins de qui, messieurs? Tiens, hein? Qui avait dessiné ça? Moebius, qui avait dessiné Les Maîtres du Temps. C'est un film assez extraordinaire. Là aussi, il y a des paradoxes temporels, des histoires. On s'en va à travers les planètes, on va sauver un enfant. C'est incroyable à découvrir parce que le twist final est assez phénoménal. Et on sent dans la musique de Jean-Pierre Boutaïr qu'on est bien dans les années 82 et qu'on vient de découvrir les bienfaits du synthétiseur. Le film ressort, et à Toulouse, il est à l'ABC, donc. Et comme il ressort, eh bien, guettez sur leur site les heures des séances. Et puis, au CGR, à Rodez, également, vous pouvez découvrir Les Maîtres du Temps. Et puis sinon, vous irez voir au cinéma Patté Wilson, Le portrait de la jeune fille en feu, le film de Céline Sciamma, qui lui a permis en 2019 d'obtenir le prix du scénario à Cannes, ou encore cette histoire, c'est l'histoire de cette jeune fille qui doit se marier avec un oblio italien, et à l'époque, vous le savez, il fallait faire un portrait de la jeune fille qu'elle allait épouser, parce qu'on faisait pas de photos à cette époque-là, il y en avait pas, et pour cause. Mais elle refuse de poser, et une peintre vient pour la peindre à son insu. C'est assez remarquable. Allez découvrir cette histoire, et allez découvrir cette histoire extraordinaire. C'est le cas de le dire, et vous découvrirez aussi pourquoi le portrait est celui de la jeune fille en feu. Ça, c'est au Pathé Wilson à Toulouse, lundi prochain, 29 avril à 20h. Sin City, j'ai tué pour elle. Alors là, ça n'a rien à voir. Frank Miller, Robert Rodriguez. Le même jour, au Gaumont-la-Bège, lundi 29 avril. Vous savez, c'est un roman graphique, Sin City, de comment s'appelle-t-il déjà, Miller, Frank Miller. Frank Miller, oui, le roman graphique, j'avais un coup une absence, Frank Miller, et Robert Rodriguez qui réalise. C'est le deuxième volet, hein, parce que c'est une suite à Sin City, il y avait eu un premier volet, et c'est l'adaptation de la série de comics du même nom, donc de Frank Miller. C'est un roman graphique publié par Dark Horse Comics. C'est le tome 2, hein, J'ai tué pour elle. Et d'autres histoires qu'on trouve dans le tome 6. Voilà, vous y êtes, si vous connaissez les tomes, vous vous repérerez. Gaumont-la-Bège, lundi 29 avril, 21h, Sin City, et puis un grand classique, là, extraordinaire, signé David Lynch, Mulholland Drive, dans sa version originale et remasterisée 4K. Dimanche prochain, 28 avril à 18h, en version originale. Là, c'est au VO de Muret.
Je l'ai vu 58 fois, je n'ai toujours pas compris.
Ouais, mais peu importe.
Après, est-ce qu'on peut. Voilà, est-ce qu'on est forcé de comprendre un film?
Oui, voilà. Et tiens, à propos, j'ai noté ça, un journaliste. Donc, je n'ai pas noté ni son nom, ni le journal dans lequel on pouvait trouver cette
question. Bravo les sources.
Oui, mais en tout cas, il dit s'il sème quelques indices sur le chemin, Lynch donne moins à comprendre qu'à ressentir.
Tout à fait. Ouais, c'est
ça. L'expérience est inoubliable à condition de se perdre.
Un film à sensation.
Faut se laisser aller.
Tout est dit. C'est Mulholland Drive, au VO de Muret, dimanche 28 avril, 18h. Laurence, c'est à vous pour les reprises sur le petit écran.
On va se laisser aller vers le cinéma, la télévision, qui commençait dès ce soir sur Arte à 20h55 avec La loi de Téhéran de Saïd Roustaoui. En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même. Que l'on ait 30 grammes ou 50 kilos, c'est la peine de mort. Samad, un flic obstiné, met enfin la main sur le parrain de la drogue. Un film réaliste et nerveux, un polar vraiment en forme de parabole sociale aussi, avec des personnages très bien écrits, à découvrir. Vendredi sur France 5, 21h10, The Game de David Fincher avec Michael Douglas et Sean Penn. Nicolas est devenu aussi riche que blasé, un peu comme Guillaume. Et pour ses 48 ans, son frère lui offre une participation dans un mystérieux jeu de rôle. Jusqu'où cela le mènera-t-il? Un scénario machiavélique et labyrinthique pour un thriller oppressant et maîtrisé. Samedi 21h, France 5, à ne pas manquer, c'est Rashomon d'Akira Kurosawa, un film de 1960 avec Toshiro Mifune. En 750, à Kyoto, un bonze, un bûcheron et un domestique se réfugient sous un portique nommé Rashomon, la porte des démons. Ils évoquent un procès auquel ils ont assisté, l'histoire d'un samouraï et de sa femme qui ont été attaqués par un bandit de grand chemin, mais leurs témoignages du drame divergent totalement. Un film vraiment fascinant et novateur, hein, tant sur le plan esthétique qu'au niveau narratif, toujours d'une troublante vérité cachée. Dimanche, Arte, 21h, L'année du dragon de Michael Cimino, 1985, avec Mickey Rourke. Le capitaine Stanley White enquête sur la mafia chinoise. Un duel à mort va l'opposer au parrain de Chinatown. Un polar urbain, incisif et brutal dans l'univers des triades, avec Mickey Rourke charismatique. À souhait, c'était vraiment l'acteur des années 80, Mickey Rourke, à ne pas manquer. Lundi sur Arte, 21h, 55, La veuve Couder de Pierre Granier de Fer avec Alain Delon et Simone Signoret. Un drame rural brillamment adapté du roman de Georges Simenon, porté par deux monstres sacrés du cinéma français. Le conseil de lecture, ce sera 365 anecdotes sur le cinéma pour se coucher moins bête. un livre pour les cinéphiles hein, qui souhaitent en savoir plus sur l'histoire du cinéma et sur les coulisses des tournages les plus connus. 10€ aux éditions Independenti Publish. Tenez Guillaume, je vous l'offre.
Merci voilà, beaucoup.
Le cinéma à la télévision cette semaine.
Je suis maintenant convaincu que c'est vraiment bénéfique de travailler.
Je crois aussi, oui.
Quand on n'entend pas...
Il faut monter le son.
Amy Winehouse dans le film de Sam Taylor Johnson, Back to Black, eh bien, la BO, elle est composée, elle, par Nick Cave.
Ah oui.
Ah oui, et Warren Ellis, et c'est du lourd. Allez, messieurs, sur cette très belle mélodie... belle composition de Cave et Ellis, donnez-nous vos coups de cœur.
Pour moi, ce sera Frère, le déserteur et un jeune chaman, le film mongol.
Back to Black, Frère et la Cinémathèque, Julien Duvivier. Vous pouvez gagner vos invitations à cinéma@radioprésence.com.
Et pour ma part, ce sera Back to Black, Amy Winehouse, Notre Monde de Louana Bajrami et Frère, un accessite pour Frère d'Olivier Cassas. Évidemment, Duvivier, tout est dit par notre ami Guillaume Sidome. Vous savez comment, vous pourrez aller voir La Belle Équipe ou encore Golgotha. Et il en reste encore des films à voir de Duvivier jusqu'au 12 mai. Merci messieurs.
Merci à vous.
Bonne soirée, merci. Mercredi.
On espère que vous avez passé une bonne soirée, oui, une bonne émission, un bon début de soirée en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission un peu spéciale. Salut, restez fidèles à présent.
Tous les matins, l'évangile du jour est commenté par un prêtre de la région.
L'évangile.
Un rendez-vous pour se nourrir et se ressourcer à 6h50, 7h50 et 8h50.